Eh bien, chers amis, ceux et celles qui étaient présents ces derniers soirs connaissent la suite. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Ruth. Au chapitre 1er, encore, ne vous inquiétez pas, lorsque nous étions au service de Dieu en Bretagne pendant 10 ans, nous avons passé une année sur le livre de Ruth dans l'église dans laquelle nous travaillons. Donc nous pouvons nous retrouver pour d'autres séries sur le même livre. Mais en attendant, nous lisons Ruth chapitre 1er comme hier soir, les 7 premiers versets, les versets 19 à 22, et nous irons à la fin de ce livre pour quelques versets encore. Ruth chapitre 1er, je lis. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. 19. Naomi et Ruth firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Chapitre 4. Les versets 13 à 17, chapitre 4, versets 13 à 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi !» Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Dans le Nouveau Testament, pour faire écho à ces lectures dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, Romains chapitre 13, les versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. après un plaidoyer pour l'amour selon Dieu, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous avons commencé hier soir, après tout un travail préparatoire de labourage de nos consciences par le Saint-Esprit, nous avons commencé à nous entretenir sur les quatre R du réveil. Je rappelle que nous n'examinons pas le réveil sous des angles particuliers, à partir de certaines expériences. Nous préférons nous appuyer sur les Écritures simplement pour évoquer ce message tellement fort, très présent, tout au long des Écritures, sur le réveil personnel. Réveil qui doit être nôtre, aujourd'hui et maintenant. Nous laissons de côté volontairement tout ce qui peut être lu dans des livres concernant ces marques particulières liées à la souveraineté du Saint-Esprit qui souffle où il veut et qui peut, c'est vrai, il le fait, et nous bénissons Dieu pour cela, toucher des régions, voire un pays tout entier, et courber un peuple au pied de la croix. Mais nous voulons vraiment nous en tenir essentiellement tout d'abord à l'enseignement des Écritures et nous nous penchons donc sur les étapes obligatoires, indissociables, interdépendantes du réveil en soulignant tout à nouveau qu'il n'y a pas de raccourci pour vivre le réveil. Reconnaître son état. C'est par là que ça commence. Il n'y a pas de véritable réveil personnel sans que notre état soit constaté et reconnu. Et le Saint-Esprit nous y aide. Lorsque nous nous plaçons à la lumière des Écritures, sous le projecteur de Dieu, le Saint-Esprit nous montre notre état. Mais notre peine, c'est précisément d'être d'accord avec le verdict de Dieu, avec la pensée de Dieu, et d'ôter nos masques. Nous avons remarqué, cela nous a interpellé, comment cette femme, tellement attachante finalement, Naomi, a commencé par reconnaître. Sans phare, de manière, je dirais presque crue. Elle n'a pas été délicate même dans sa reconnaissance. Il y a un relief saisissant dans le texte, dans ces versets 20 et 21 notamment. au point que l'on pourrait croire qu'il y a dans son langage comme une sorte de rébellion à l'endroit de l'Éternel. Mais la connaissance de l'ensemble du climat de l'Ancienne Alliance, où les hommes et les femmes du peuple de Dieu savaient voir Dieu derrière toute situation, nous amène à constater qu'il n'y a pas forcément rébellion. Tout simplement parce qu'il est proclamé à maintes reprises dans l'Ancienne Alliance que c'est de Dieu que viennent les maux et les biens. Même s'il n'est pas l'origine première des maux, nous savons que le Dieu souverain contrôle toute situation. Et bien entendu, nous ne voulons pas dire ce soir un seul instant que si Dieu contrôle toute situation, y compris les situations dramatiques de jugement, nous pouvons le louer pour ces situations. C'est là le travers, c'est là la déviation de certaines de nos lectures évangéliques qui sont comme une invitation à louer Dieu pour notre péché. Non. Vous remarquez que Naomi n'a pas loué Dieu pour son péché. Elle voit la main de Dieu dans sa situation. Elle reconnaît dans son amertume un jugement de Dieu sur le désordre lié à la désobéissance en Moab. Mais elle ne loue pas Dieu pour cela. Nous devons toujours nous humilier de notre péché, nous allons le redire. Et c'est ensuite alors que Dieu, prenant en main les conséquences de notre péché, pardonné, déposé à la croix, c'est ensuite que nous pouvons le louer. Parce qu'il prend en main ses conséquences, qu'il utilise ce mal pour en tirer du bien, pour continuer à nous faire mûrir, pour faire de nous à nouveau des êtres féconds, pour que nous puissions mieux aider d'autres qui passent par le même chemin. Mais la louange succède toujours à la porte basse de l'humiliation. Aussi, lorsque nous lisons des livres qui nous invitent à louer le Seigneur pour tout, y compris notre péché, sans passer par cette porte basse de l'humiliation, disons non à la lumière de ce que disent les Écritures. Je tenais simplement à le préciser au cas où nous ayons été troublés à la lecture de cette attitude de Naomi qui, avec tant de relief, reconnaît son état. Nous avons ensuite évoqué le second R, rompre avec le passé, parce que nous ne pouvons pas simplement vivre éternellement en reconnaissant notre péché. Ce n'est pas suffisant. Reconnaître vraiment, c'est vouloir rompre. L'on peut mesurer la sincérité de cette reconnaissance à la suite, au désir profond de rupture, d'une vraie rupture avec notre attitude, nos actes, nos pensées, nos paroles, Moabites. Et puis nous avons dû, hier soir, aussitôt ouvrir le troisième air du réveil, pour ne pas être découragé, pour ne pas permettre à l'ennemi de s'emparer de ce message qui est teinté de quelque sévérité. Parce que Dieu, dans son amour, est sévère. Mais il ne veut pas nous décourager. Et c'est pourquoi nous nous sommes empressés de souligner que nous n'avons pas le droit de nous enfermer dans une sorte de christianisme de la rupture. Rompre pour rompre. Ce qui nous installerait dans un ghetto, dans un christianisme très centré sur le pôle négatif de la sainteté. Et vous savez que nous sommes, hélas, dans le temps des déséquilibres, comme jamais peut-être dans l'histoire de l'Église. C'est Luther qui comparait l'homme à un cavalier ivre. Mise en selle, son ivresse le fait tomber d'un côté, remise en selle, son ivresse le fait tomber de l'autre. Et c'est pourquoi il est important de préciser que le risque est grand de s'attacher simplement à un christianisme de rupture. Là où d'autres s'attachent trop uniquement à un christianisme d'ouverture. C'est pourquoi nous devons venir et revenir aux Écritures de manière à trouver véritablement notre équilibre dans le Christ des Écritures. Rompre, oui, mais rompre parce qu'on a la possibilité de revenir. Je pense à l'instant à nos relations avec nos enfants, à l'heure de l'adolescence, lorsque il arrive que dans leur désir de trouver leur propre identité, ils piaffent comme chevaux impatients et prennent leur distance. Le danger est grand pour les parents de vivre alors une relation de distance, de froid, de coupure des ponts, et d'oublier que nous, parents, nous nous devons à un amour inconditionnel, une recette. Ceux d'entre vous qui étiez là ces derniers soirs, vous comprenez cela. Cet amour fiable, stable, qui ne varie pas au gré des états d'âme, ni des nôtres, ni de ceux qui nous entourent. Qui, c'est vrai, parfois peut signifier que nous ne pouvons plus donner notre affection de la même manière. Nous l'avons expliqué. Mais qu'est-ce qui va permettre à tel ou tel de nos enfants, à un moment donné de sa crise, de rompre avec une situation moabite? Qu'est-ce qui va le permettre? C'est dans la mesure où il sait qu'il peut revenir à la maison. Que les ponts ne sont pas coupés. Et que papa et maman, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, l'aiment toujours autant. Ils lui ont dit leur désaccord. Ils ont essayé de l'exprimer véritablement dans la fermeté et la douceur d'eux, mais ils l'ont dit. Mais ils ont ajouté, tu sais, notre cœur et notre foyer étaient toujours ouverts. Et c'est cela même qui va aider ensuite, dans ces temps de crise que le Seigneur permet, où il va dire à nos enfants, reconnais, romps, c'est ce qui va leur permettre de rompre. Parce qu'ils sauront que papa et maman sont là pour les accueillir. Ça, c'est le message des Écritures. Je sais que, quel que soit mon péché, quelles que soient mes désobéissances, quelles que soient mes frasques, il m'est toujours possible de revenir au Seigneur. Et c'est ce qui va me donner la force de rompre, parce qu'il m'attend. Il m'attend. Revenir. Le réveil est toujours un retour à un endroit que l'on a quitté. Et vous pourrez, oh, je vous y encourage, ouvrir les livres, notamment du prophète Jérémie ou Ésaïe. Toute la série de petits prophètes que nous n'aimons pas beaucoup. Et souligner dans chacun de ces livres, dans le vocabulaire de ces hommes de Dieu, de ces prophètes, inspirés parfaitement par l'Esprit, vous pourrez souligner le nombre de fois où le terme « revenir » revient. C'est impressionnant. Nous n'allons pas le faire, nous sommes limités dans le temps, surtout ce soir. Mais en tout cas, revenir est un des grands mots-clés. Nous dirons que c'est l'axe des quatre R du réveil. Dans ce revenir, il y a en fait l'acte de rupture et l'acte de reconnaissance. Et c'est pourquoi nous devons lui donner ce soir une place tout à fait particulière. Dans le fond, c'est une fois de plus l'histoire du fils prodigue. Je me lèverai. C'est Naomi. Puis elle se leva. Plus de 200 fois dans l'original hébreu de l'Ancien Testament. Se lever. J'irai vers mon père. Et cela voulait bien dire, je retournerai vers mon père. Ou je pense au réveil personnel d'Abraham, le père des croyants. Dès les premiers pas de sa foi toute neuve, la famine s'installe. N'est-ce pas? C'est intéressant, toujours cette unité des Écritures. Dans le Négeb, situation de sécheresse difficile. Et de même qu'il y eut Moab pour la famille d'Elimelech, il y eut l'Égypte pour Abram, encore Abram à l'époque, et les siens. Et puis de la même manière que ce sont les marins qui ont jeté Jonas à l'eau pour le réveiller tout à fait, c'est Pharaon, un païen lui aussi, qui a expédié Abram et les siens d'où ils venaient. Voyez comme Dieu sait se servir de ceux qui ne le connaissent pas même, pour nous placer sur le chemin du réveil. Et il nous est dit dans la description du réveil personnel d'Abraham, Abraham remonta par étapes du Négev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement. Genèse 13, 1. Et nous aurions pu simplement ce soir prendre ce verset et creuser pour essayer de comprendre encore beaucoup d'autres choses sur le réveil. Mais revenons à Naomi pour constater, nous l'avons dit hier soir, qu'elle est revenue dans trois domaines, trois dimensions. Parce qu'une fois de plus, l'ennemi qui rôde, celui que Luther a appelé le singe de Dieu, parce que, ayant ce don d'imitateur et de caricaturiste, très subtil parfois, va essayer, là aussi, de pervertir ce retour, de le pourrir, de l'affaiblir, de l'affadir, pour empêcher, pour faire avorter le réveil. Je pense au retour si sérieux de Josias, le dernier roi de Juda selon le cœur de Dieu, où il est question de réveil et de réforme, de véritable restauration, mais hélas, surtout personnelle, plus en Josias qu'au sein du peuple. Et c'est pourquoi le jugement n'a pas tardé ensuite. Et il est dit dans 2 Rois 23-25, « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. » C'est intéressant. Cette insistance sur le Saint-Esprit pour nous signifier qu'il existe un retour sérieux, par opposition à un retour qui n'a rien de sérieux. C'est pourquoi Naomi est tout d'abord revenue en un lieu. Et bien entendu, elle est revenue à Bethléem Ephrata. Alors ceux et celles d'entre vous qui avaient participé aux précédentes soirées, vous vous dites, eh bien, Maurice Decker, ce soir, il va recommencer l'étude d'il y a 2 ou 3 soirs, lorsque nous avons développé Bethléem Ephrata. C'est tentant, et après tout, pourquoi pas? Mais nous ne pouvons pas esquiver. C'est vrai que le retour est d'abord un retour à la maison du pain, à Jésus-Christ. Il faut que cette relation avec le Seigneur soit restaurée. Et lorsqu'on lit attentivement ce livre d'Osée, on se rend compte que là aussi, le Saint-Esprit a tenu à préciser une dizaine de fois que le peuple d'Israël, Éphraïm, était invité solennellement, de manière pressante et urgente, à revenir à Dieu. Chaque fois. Et nous allons voir combien c'est important. Prenons simplement 2 ou 3 passages du livre d'Osée pour le démontrer. Osée, chapitre 2, verset 9, nous avions lu les versets précédents, nous lisons le dernier verset, le verset 9, Osée chapitre 1er, verset 9. Israël est comparé à une prostituée. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. En langage moderne, si tu cherches ta satisfaction en dehors de Christ, tu parcourras la terre tout entière et tu diras « Vanité des vanités, tout est vanité. » Seul Christ suffit pleinement. Puis elle dira alors « J'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Est-ce que vous êtes frappé? Vous croyez à l'unité des Écritures? Vous n'avez pas l'impression qu'on a le sentiment d'entendre notre amie Naomi? Comblée, j'étais partie, n'est-ce pas? Comblée, j'étais partie, et l'Éternel me ramène les mains vides. Nous avons exactement le même langage, mais cette fois-ci non pas mis dans la bouche d'une seule personne au sein d'Israël, mais qui habitera le peuple d'Israël en tant que nation. Et nous savons que ça, c'est un temps qui est encore devant nous, qui se précise, qui semble imminent, où enfin Israël, en tant que nation, va retourner vers son premier mari et confessera ouvertement qu'il y a bien longtemps ce peuple était plus heureux qu'il l'est maintenant. Nous pouvons aller un peu plus loin, chapitre 3, verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Là encore, l'accomplissement semble tellement près maintenant. Allons plus loin encore, au chapitre 6, dans les versets 1 et suivants. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ah, quelle symphonie. Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Judas ? Votre piété, votre hesset. Voilà le terme. Votre loyauté. Votre amour à mon égard. Votre fidélité. Votre solidarité avec moi. Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. Et c'est ce qui est arrivé, mes amis. Quelques années plus tard, ce royaume du Nord était déporté en Assyrie. C'est ce qui fait de ce livre d'Osée un livre particulièrement bouleversant, parce que Osée fut le dernier prophète à parler de la part de l'Éternel à ce royaume du Nord. Et ce texte est intéressant parce que vous l'avez remarqué, il évoque le langage du retour. Il y a là comme une envolée quelque peu lyrique de la part d'Israël. Mais Dieu lit dans les cœurs. Elle dit, vous savez, votre baratin, je n'y crois pas. Vous êtes capable de chanter le retour, mais vous ne le vivez pas. D'ailleurs, il y a un commentaire à ce passage et à d'autres dans le psaume 78, 78 et dans les versets 34 à 37. Quand il, l'Éternel, les frappait de mort, les Israélites, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que leur Dieu très haut était leur libérateur, mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Voyez quel commentaire. Ah, c'est une chose d'avoir le langage du réveil. C'est une autre chose que de vivre le réveil. On peut se gargariser de mots, mais on ne trompe pas Dieu. Si nous allons dans Joël chapitre 2, voyez ces prophètes qui se succèdent, Joël chapitre 2, versets 12 et suivants. Maintenant, encore, vous remarquez, maintenant. Maintenant. Non pas demain, mercredi ou après-demain. Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi. De tout votre cœur. Voyez cette insistance. De tout votre cœur. Mobilisez votre personne tout entière. Avec des jeûnes, Joël 2, verset 12, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Et puis allons au chapitre 4 du prophète Amos. Amos chapitre 4, verset 6 et suivant. Nous prendrons déjà même au verset 4. Amos chapitre 4, verset 4. Allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce, avec du levain. Ça, c'est déjà problématique. On commence à réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce genre de sacrifice. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Toujours le même langage. Le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché, mes amis. Ça, c'est notre situation ce soir. Chacun d'entre nous représente une ville ce soir. Chacun d'entre nous représente un autre champ ce soir. Et il y a des champs ce soir qui vont recevoir la pluie. Et peut-être qu'à quelques centimètres à peine à côté de nous, vous savez, comme par temps d'orage, sur la route, on voit la ligne de la pluie qui s'arrête. On peut faire un pas et on est hors de la pluie, dans la sécheresse. Eh bien, sur nos chaises, le champ d'à côté ne recevra pas la pluie. Parce que notre cœur n'est pas disposé. Parce que nous maintenons cette cloche de verre de notre royale respectabilité. Nous refusons de reconnaître. Alors la pluie a beau tomber sur le champ reste sec. Et peut-être qu'à côté de nous, quelqu'un va pleurer dans son cœur, ou parfois ouvertement, sur son péché, parce que le Seigneur l'atteint, et notre cœur va rester sec. Sec. Parce que nous refusons de céder à cette action du Saint-Esprit. Combien la parole de Dieu est réaliste. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif, parce qu'on ne peut pas comme ça aller avoir une sorte de réveil par procuration, On se tourne vers le voisin qui pleure, lui dit « Donne-moi un peu de tes larmes, ça ne va pas !» Mais mes amis, le réveil est un rendez-vous personnel à la croix. Personnel. Il n'y a pas de réveil par procuration. « Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. » J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quel message ! Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël, car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres. Et c'est intéressant parce qu'au chapitre 5 et au verset 8, Dieu est présenté comme celui qui change les ténèbres en aurore. Nous avons le choix. Ou bien Dieu change l'aurore en ténèbres, ou il change les ténèbres en aurore. Quel message solennel! J'ai volontairement laissé de côté un texte d'Osée au chapitre 7 et au verset 16 qui est très intéressant puisqu'il dit « Ils reviennent, mais non pas en haut. » C'est intéressant, hein ?« Ils reviennent, mais non pas en haut. » Et le prophète inspiré ajoute de la part de l'Éternel « Ils sont comme un arc faussé. Vous savez, quand on fabrique un arc, c'est un art. Il y a des questions d'équilibre à cause du diamètre du bois, de la tension, de la corde, etc., etc., n'est-ce pas ? Il y a des règles bien précises à respecter. Et l'enfant ou l'adulte qui ne respecte pas ces règles peut tirer effectivement dans une direction, youp ! La flèche par ailleurs. Ils sont comme un arc faussé. On peut revenir et ne pas revenir en haut. Par exemple, on peut revenir aux réunions de prière. On peut revenir à plus de lecture de la Bible. On peut revenir à plus de libéralité. On peut revenir à plus d'évangélisation. On peut revenir à une plus grande assiduité dans la vie d'église locale. Ce n'est pas ça le réveil. Ça, c'est une conséquence du réveil. Mais ce n'est pas le réveil. Je ne veux pas dire que toutes ces dimensions ne soient pas importantes. Mais toutes ces dimensions doivent être précédées d'un retour à la source d'eau vive, à la personne de Jésus-Christ, à celui qui communique par le Saint-Esprit, cessant d'être attristé, reprenant pleine liberté d'action en nous et par nous, va nous conduire vers ces différentes dimensions. Dit d'une autre manière qui peut paraître plus abrupte, le réveil, ce n'est pas un marchandage avec Dieu. Dieu n'est pas une sorte d'épicier qui ferait des échanges. Oh, Dieu connaît trop notre cœur. Nous dirions, ben, si je me suis réveillé, c'est que j'en ai tout le mérite, n'est-ce pas ? Loin de là, le réveil est centré sur la grâce, sur la générosité de Dieu. Il faut revenir à celui que l'on a quitté. Et là encore, combien dans le domaine spirituel, l'ennemi est subtil. Pour que nous idolâtrions éventuellement notre Bible, même cela. Nous pouvons idolâtrer la prière en elle-même, la libéralité en elle-même, l'évangélisation en elle-même, la foi en elle-même. Et c'est là certainement un des problèmes de notre temps. Cette manière dont nous finissons par idolâtrer, diviniser les dimensions les plus valables et les plus spirituelles en les déconnectant de la source, du moteur. En nous attachant uniquement à elles. Et en faisant en quelque sorte des trucs qui obligent Dieu à nous bénir. C'est là peut-être une des distorsions les plus subtiles de la puissance des ténèbres dans les temps actuels, dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que nous voyons toujours le diable dans les choses dégoûtantes. Nous oublions de le voir dans les choses les plus spirituelles. La Bible peut m'empêcher d'accéder à Jésus-Christ, parce que je peux devenir bibliolâtre. Les dimensions les plus spirituelles peuvent devenir mes plus terribles ennemis, si je ne regarde pas d'abord à la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui sera au cœur de mon évangélisation. C'est lui qui sera au cœur de ma recherche dans les Écritures.
C'est à lui que je donnerai dans la libéralité. C'est lui que je viendrai servir et adorer dans le cadre de l'Église locale. Et nous pourrions continuer ainsi. Revenir à toutes ces dimensions d'abord, c'est revenir à la loi. Et non pas à la grâce. Et c'est pourquoi si souvent, dans notre soif de réveil, parce que nous avons pris des bonnes résolutions, de faire et de faire et de faire encore, nous nous sommes retrouvés plus secs qu'avant. Et nous avons eu tendance à tourner un doigt culpabilisateur à l'endroit de Dieu, en lui disant « Seigneur, tu es un menteur. Je fais ceci, je fais cela, je fais ce que tel aîné dans la foi m'a dit. » Et ça ne marche pas. Et je suis encore plus désespéré qu'avant. Alors Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce baratin sur le réveil ? Mes amis, mes bien-aimés, revenez toujours à la grâce qui relève et non à la loi qui condamne. Et vous savez, cette question des œuvres de la loi, ça colle à notre peau. Nous avons tant de peine à nous en débarrasser. Je pense au fils prodigue. Vers qui est-il revenu ? Heureusement qu'il n'est pas passé dans un certain champ. Hein ? Livre de Ruth, livre des champs. Hein ? Le champ de la grâce, le champ de la loi, le champ du monde en Moab. Dans un champ, travaillait le frère aîné. Le champ de la loi. J'imagine le fils prodigue, ce frère cadet passant dans le champ. Mes amis, mais il ne serait pas sorti vivant. S'il eût osé se précipiter dans les bras de son frère, il eût été reçu avec force au coup de poing. Peut-être que le drame de Caïn et d'Abel se serait renouvelé dans le champ. Le Seigneur Jésus, dans la parabole, s'est arrangé parce qu'il connaissait les Écritures en tant que fils de Dieu, fils de l'homme. Il accomplissait même dans les paraboles tout le message des Écritures. Et il s'est arrangé pour faire passer ce fils prodigue sur le bon chemin. Parce que le Père, nous l'avons dit, l'attendait. Il l'attendait. Et j'aime cette parabole du fils prodigue, parce que ce n'est pas uniquement une parabole faite pour l'évangélisation, ça c'est une réduction du texte. C'est aussi un merveilleux message sur le réveil. Ce père dont peut-être tout le village se moquait, vous vous rendez compte ? Un père qui avait été enterré vivant, méprisé, bafoué, et qui court à travers le village, qui relève le pan de son vêtement, qui ose montrer ses jambes. Vous savez, il faut voir toute la tradition orientale pour réaliser que ce père aimait tellement son fils qu'il était prêt à être couvert de ridicule par tout le village. On devait dire dans les maisons en le voyant passer, mais il a pris un coup de soleil, ce vieux bonhomme. Et les larmes coulaient sur les joues alors qu'il serrait son fils dans ses bras. Et puis on le voit après, ce frère aîné qui ne connaissait rien, mais rien de la générosité du père. Il travaillait, il bûchait, il transpirait. Et il se privait de toute la grâce du Père. Voilà le premier élément de retour tellement essentiel. Revenez, revenez à lui. revenez à lui. Ne bâtissez pas des châteaux. Ne dites pas, Seigneur, je te promets de... Je m'engage solennellement devant toi. Ah ! Non. Non. Seigneur, je reviens à toi. À toi, comme je suis. Simplement, comme le Fils prodigue. Pas de marchandage, Seigneur. De toute façon, j'ai pas la force. J'ai pas la force. Et puis, Naomi est revenue à un événement. À un événement. Et vous savez, là, le message de la Bible a été écrit pour les chercheurs de Dieu. Pour ceux qui ne se contentent pas simplement de ramasser la poussière en surface du sol biblique. Mais pour ceux qui creusent aussi, un peu plus profondément. Et il y a une petite pépite d'or, un merveilleux diamant peut-être, dans le verset 22, lorsqu'il est dit que Naomi et Ruth arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Le réveil, c'est le retour à un événement. Tout simplement parce que le commencement de la moisson des orges, c'était le moment de la Pâque juive. Vous lirez cela dans Deutéronome 16, où dans les 12 premiers versets, vous avez une association entre la moisson des orges et la Pâque juive, le début de la moisson, dans Lévitique 23 aussi, versets 10 à 14. D'ailleurs, il y avait immédiatement après la fête des prémices, qui annonçait la résurrection de Christ. Et c'est intéressant cela, parce qu'on aurait tendance à oublier, par une lecture trop TGV du début du livre de Ruth, n'est-ce pas ? On aurait tendance à oublier que pendant 10 ans, en Moab, eh bien Naomi n'avait pas célébré la Pâque. Pendant 10 ans, à une certaine époque de l'année, là au mois d'avril, le cœur de Naomi devait être tout serré. Elle pensait à cet événement, mais elle était en terre étrangère. 10 années de rendez-vous manqués avec la croix et avec la résurrection. C'est cela le réveil. C'est le retour vers Christ, c'est vrai. Mais c'est en même temps un retour vers la croix. Vers sa mort. Vers ce lieu où le péché de l'homme est exposé dans toute son horreur. Voulons-nous savoir ce que Dieu pense de notre péché ? Regardons à la croix. À la croix, le péché de l'homme est exposé dans toute son horreur. L'intensité de la haine de Dieu à l'égard du péché explose à la croix. La croix, c'est la confrontation d'un courant chaud, brûlant de Dieu avec le courant froid de l'homme. Et vous savez que en météo, quand ces deux courants se rencontrent, cela peut donner parfois des catastrophes. Et il y a eu une catastrophe. Quelque chose de terrifiant qui s'est passé à la croix. Dans la mort du Sauveur. À la croix, mon péché est mis en lumière. Et le réveil, c'est un retour à la lumière de Dieu, cette lumière qui silencieusement éclaire le péché qui a coûté la vie à son Fils. La croix, c'est la confrontation de la lumière de Dieu avec les ténèbres de l'homme. Et je dois accepter la lumière de Dieu. Il n'y a pas de réveil sans que j'accepte la lumière de Dieu qui explose à la croix sur mon péché. Je peux le voir sans phare, tel quel. Et c'est ce qui me permet de le confesser. 1 Jean 1,9. Si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier loin, loin de toute iniquité. Confessez. Littéralement, dit le texte grec homologué, comme c'est record qu'une commission nationale ou internationale va homologuer, va reconnaître comme officiellement valable, devant être inscrit sur des tablettes parce que les conditions ont été remplies pour qu'il le soit. Confesser, homologuer, dire comme, dire avec. Seigneur, tu me dis que j'ai menti. Je suis d'accord. J'ai menti. Tu me dis que j'ai volé, Seigneur, je suis d'accord, j'ai volé. Tu me dis que j'ai agi avec orgueil, je suis d'accord, j'ai agi avec orgueil. Seigneur, d'accord, je ne discute pas. Parce que toutes ces fautes t'ont cloué à la croix. Alors je ne discute pas. Je reconnais, je dépose à la croix. Et c'est ce que nous devons faire tous les jours. Continuellement, d'heure en heure. Mais il y a de ces dérapages où nous nous installons sur cette planche savonneuse qui nous éloigne. Mais la croix, c'est aussi le lieu où la grâce de Dieu éclate dans sa perfection. La lumière de Dieu, jaillit, éclaire, illumine non seulement l'horreur de mon péché, mais l'intensité de son amour. Que Dieu ait accepté de donner ce qui lui était le plus cher, son Fils bien-aimé, son unique, en qui il trouvait tout son plaisir. Celui qui avait vécu dans la plus parfaite harmonie durant toute l'éternité passée, qu'il ait accepté de l'envoyer dans cette fosse aux lions pour s'identifier de cette manière en nous, en toute chose, sans commettre le péché, mais en devenant finalement péché pour nous. Mais quel amour! Alors que nous étions ses ennemis, alors que nous l'avons méprisé, alors que nous avons détourné de lui nos regards. Ah, si nous voulons voir quelque chose de la grâce de Dieu, dans sa plus sublime expression, regardons la croix. Que serais-je s'il n'y avait pas eu la croix? C'est au cœur du livre de Ruth que la grâce qui rachète va littéralement exploser. Elle va accomplir ce que la loi ne peut pas faire. Vous savez qu'au cœur du livre de Ruth, un mot revient 20 fois dans le texte hébreu. Racheter. 20 fois. Et plus on approche de la fin de ce livre, plus ce mot semble vouloir comme se multiplier. Au début, au chapitre 2, c'est cette rencontre. Par hasard, on traduit certaines versions. Un des 4 hasards signifié dans les Écritures pour bien montrer qu'il n'y en a pas, n'est-ce pas? Cette providence extraordinaire, cet amour de Dieu. Ruth qui arrive dans le bon champ, sans savoir, et qui se met à glaner, sous le chaud soleil, qui se fait toute petite, qui se tasse, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas du pays, et qui lorgne de temps en temps de côté, et qui voit là, comme nous l'avons déjà dit, la faucheuse, batteuse, lieuse, et tout ce que vous voulez, qui a un travail phénoménal en si peu de temps, alors qu'elle a tant de peine à remplir son sac. Et puis Boaz, cet homme riche, le texte original laisse entendre riche en tout. Boaz, en lui la force, qui s'approche d'elle, l'ami, oh quelle belle relation, et qui l'accueille avec quelle grâce! Et il y aurait tant à dire sur ce chapitre 2, sur les remarques que Boaz fait, la relation qui s'établit avec les serviteurs, le repas qui est pris ensemble, cette générosité de Boaz qui se manifeste de plus en plus, ces épis qu'on laisse traîner, ce chant de reconnaissance qui déborde du cœur de Ruth lorsqu'elle approche sa belle-mère à l'issue de la journée et qu'elle lui raconte, et l'émerveillement de sa belle-mère qui recommence à sourire, à se réjouir, qui voit que Dieu ne l'a pas abandonné. Et il dit, mais tu sais, mais c'est merveilleux, Ruth. Tu sais, la main de Dieu est dans tout cela. Surtout, reste dans ce champ, parce qu'il se trouve que cet homme a droit de rachat. Il faudrait passer tant de temps à parler de ce droit de rachat, de Deutéronome 25, versets 5 à 10, Lévitique 25, versets 23 à 28. Je rappelle simplement, si un homme marié meurt sans laisser de postérité, sans enfant, sa veuve sera épousée par son plus proche parent, son frère s'il en a un. Et le premier enfant mâle qui naîtra de cette union portera le nom du défunt. Un enfant donné par procuration aux morts, pour que son nom ne soit pas retranché d'Israël, et que son héritage subsiste sans passer aux mains d'un étranger. Une loi destinée à assurer la survie d'Israël. Une loi de l'amour de Dieu. Et ce parent qui avait le droit d'épouser la veuve s'appelait le Goël, le rédempteur, le racheteur. Voilà la solution. Il y a là le rédempteur. Quelque chose peut se passer. Alors, écoute mes conseils. Fais ce que je te dis. Et vous avez toutes ces explications tellement remarquables du début du chapitre 3 et qui doivent être considérées dans leur cadre à la fois biblique et oriental, qui ne sont empreintes que de pureté. Il n'y a aucun sous-entendu dans le domaine de la sexualité ou quoi que ce soit de ce genre. Il y a au contraire une immense pureté dans ce texte. Plein de symboles, plein d'images. Et puisque la vie orientale est tellement faite d'images, de symboles, tellement suggestifs, si loin de nos abstractions. Et c'est ainsi que Ruth, le cœur battant, dans un suspense incroyable, va pendant la nuit se coucher aux pieds de Boaz pour lui demander d'exercer ce droit de rachat, de rédemption. Et puis là, au milieu de la nuit, il s'éveille, il constate la loyauté de cette femme. Il engage un dialogue avec elle et alors la nuit va devenir la plus sombre dans l'histoire de Ruth. Cette femme dans le cœur de laquelle un amour est en train de grandir à l'endroit de cet homme tellement aimé et aimant, aimable. Cette femme va entendre une nouvelle épouvantable. Il y en a un autre. Il y a un autre parent qui est encore plus proche que moi. Et je suis obligé de lui laisser la priorité. Ah ! Quel choc peut-être, certainement, dans le cœur de Ruth, parce qu'elle ne le connaissait pas, cet homme. Elle ne savait pas s'il était beau, s'il était laid, s'il avait mauvais caractère, s'il avait bon caractère, s'il avait... Hein ? On peut imaginer. Et dans son cœur, il y avait déjà tant de choses qui bouillonnaient pour Boaz. Quel moment difficile. Mais si vous voulez, l'autre, c'était la loi. C'était la loi. Il était le plus proche parent, un point, c'est tout. Et il fallait passer par la loi. Mais quel amour dans le cœur de Boaz. Reste calme. Tu vas rentrer là, avant que la lumière du jour ne soit là, pour qu'on ne puisse pas aller jaser ensuite une moabite. Hein? Fais attention. Et puis là encore chargé d'une nouvelle mesure de grâce. Hein? C'est beau. Et puis le matin, à la porte du village, là où se traitent toutes les affaires, là où le conseil de la ville se réunit, il rassemble 10 hommes parmi les anciens du village. Et lorsque le Rédempteur vient à passer, il arrête. Et il lui explique. Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer, te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et l'autre dit, chic alors, ça m'intéresse. Vous savez, un terrain, ça intéresse toujours un paysan qui veut agrandir son domaine. Ah, il était intelligent, Boaz. Être disciple de Christ n'est pas faire la grève avec les facultés que Dieu nous a données. Il a commencé par le bon bout. Tant qu'il s'agit d'un terrain, allons-y. Ah oui, mais attends, non, oui, d'accord, tu rachètes. Mais le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite. Comprenez, hein? Faut que ce soit clair. La Moabite. Est-ce qu'il y a eu un début d'infarctus chez l'autre? Femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis racheter, bien sûr. Tant que c'était un terrain, il était gagnant. Mais s'il épousait... Ruth, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que quand il y aurait un enfant, le terrain, ce serait pour l'enfant, vous comprenez? Et l'enfant, il serait considéré comme étant un enfant de la part du défunt. C'est-à-dire qu'il serait privé de cette portion d'héritage. Et en plus de cela, se mariant, il y aurait des bouches à nourrir, vous comprenez? C'est-à-dire que pour exercer le droit de lévira, de rachat, n'est-ce pas? Il fallait faire preuve de grâce, de générosité, vous comprenez? Et ça... L'autre n'était pas prêt à le faire. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que cet homme s'est tourné vers les 10 anciens qui étaient les témoins. Il a dit, écoutez, hein, vous êtes bien d'accord, vous, hein? Dis-toi, Jules, t'es d'accord, hein? Ouais, c'est la loi, Moabite, toi, c'est la loi, Moabite, toi, c'est la loi, Moabite, 10 fois. 10 fois, c'est curieux ça. Moi, je me demande... Si ce n'était pas pour nous parler des 10 commandements. La loi de Dieu. La loi de Dieu. Et alors on voit Boaz alors, n'est-ce pas, qui dit aux anciens, tout le peuple, Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelec, à Kilion et Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, etc., n'est-ce pas? Combien c'est beau, n'est-ce pas? La loi qui fait place à la grâce. À la grâce. Oh, quel beau moment pour Ruth, la Moabite. Lorsque la grâce triomphe et qu'elle annonce de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Pour Naomi, Bethléem n'a pas été un lieu de reproche, mais un lieu de délivrance, de restauration, d'accueil. Et nous devons nous souvenir ce soir que le sang de l'agneau pascal l'attendait depuis 10 ans, ce sang d'où jaillit la guérison. Le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait « Vengeance, vengeance !» Ce sang-là, le sang du Seigneur Jésus, crie « Pardon, pardon !» Oh, que j'aime cela ! Osée 14, « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. » Apportez avec vous des paroles, revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne, emporte littéralement toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Ça, c'est ce qui se passera un jour, un vrai retour. Il existe pour le moment à l'échelle individuelle, au sein du peuple juif, comme parmi les nations. Et vous avez la réponse dans le verset 4. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je réparerai leur infidélité. Ma femme est en train de lire ces jours-ci un livre remarquable qui vient de nous être offert. Et elle me mentionnait ce matin une devinette dans ce livre. Que fait Dieu toute la journée? Demandait une fillette à sa maman. Question difficile, ma chérie. Je ne sais pas. Il me semble que Dieu doit passer son temps à réparer ce que nous gâtons. Dieu est le sauveur, il est le réparateur, et il va plus loin, je pense à ce message de cet homme de Dieu qui, remarquant que Dieu était toujours prêt à pardonner, écrit ceci, « Comme la mer avide cherche le long des récifs une ouverture dans laquelle se jeter, et qu'elle bouillonne jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Ainsi, l'amour de Dieu attend impatiemment à l'extérieur de notre cœur jusqu'à ce que nous l'ouvrions à la confession et à la repentance. Dieu pardonne ensuite, non chichement et à contre-cœur, mais royalement, abondamment, gracieusement. Son pardon est digne de sa personne, proportionné aux ressources de son être glorieux et selon les richesses de sa grâce. Il fait plus que pardonner, il oublie. Il fait plus qu'oublier, il fait sonner le carillon de la fête, il fait encore plus que cela. Il incruste des joyaux dans les cicatrices de nos péchés, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Et tout cela à cause du sang qui a libéré cette abondance de miséricorde. Mes bien-aimés, notre espérance dans le Seigneur n'est jamais vaine quand nous empruntons les chemins que lui-même nous fixe, ceux de sa grâce. Je ne suis qu'un pécheur gracié, et plus j'avance avec le Seigneur, plus je réalise que je n'ai que cela comme mérite, mes bien-aimés. Demandez à mon épouse combien de fois je dois lui demander pardon. Et combien, finalement, toute notre vie conjugale est un pardon réciproque. Nous nous devons d'exercer la grâce l'un à l'endroit de l'autre. Et c'est là, je crois, de plus en plus ce qui fait la dimension révolutionnaire de la vie d'un couple. La pierre de touche, c'est le pardon. Notre besoin de nous regarder réciproquement avec le regard de la grâce. Heureuse l'Église locale qui a compris cela.
Je dois dire juste deux mots alors, avant de conclure sur la troisième dimension de ce retour. Bien entendu, Naomi est revenue dans une famille. Elle a réintégré la famille de Bethléem. Lorsque nous revenons à Christ, Christ avec nous nous entraîne vers de nouvelles relations à l'endroit de ceux que nous avons quittés, à l'endroit de ceux que nous avons meurtris, à l'endroit de ceux que nous avons jugés sévèrement, de ceux que nous avons critiqués, calomniés, médits, méprisés. Et c'est vrai, dans ce programme du retour, il y a toujours une dimension de réparation. Il n'y a pas de véritable retour qui ne soit accompagné par une réparation. Le Seigneur nous accompagne. Il vient avec nous en vue de cette réparation. Des relations horizontales doivent être rétablies. « Père, disait le fils prodigue, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le ciel, toi. Nous avons un texte dans l'Ancien Testament, dans Malachie, au chapitre 3, dans les versets 7 et 10, qui va dans ce sens et dans une dimension de réparation toute particulière. Chapitre 3, versets 7 à 10. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel désormais. » Et vous dites, mais en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Voyez qu'il est encore question, tiens, d'eau. Après la sécheresse, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, etc. Revenez à moi, et revenant à moi, eh bien il y a de l'ordre à remettre, n'est-ce pas? Y compris dans le domaine du budget. Il faut qu'à nouveau ce soit le Seigneur qui gère, qu'il soit aussi seigneur de notre portefeuille. Mais n'est-ce pas, ne faisons pas l'inverse. Revenez à moi, et revenant à moi, alors, dans la mesure où je reprends la place qui me revient dans votre vie, alors je vais vous montrer. Et je vais vous aider à revenir, comme on dit, par étapes. Hein, comme Abraham, revenir par étapes. Dieu va nous montrer endroit après endroit, des domaines où nous avons à faire autrement. Il y aura des réajustements, mais sa grâce va nous porter dans ces différentes directions. Et voyez-vous, là aussi, c'est un test. Il y a quelques années, j'avais été invité en Guyane française, donc en Amérique du Sud, pour une série de conférences dans plusieurs villes de Guyane, notamment dans
la capitale de ce département français d'outre-mer, Cayenne. Et soir après soir, des personnes s'avançaient à l'appel, soit pour se donner à Jésus-Christ, ou en tout cas prendre un premier engagement ou vouloir en savoir plus à son sujet. Et d'autres, appartenant à Christ, voulaient mettre de l'ordre dans leur vie avec Christ. Et nous leur remettions, un certain nombre de conseillers leur remettaient un petit document. Il y avait un document pour ceux qui ne connaissaient pas encore Jésus-Christ et un autre que j'ai ici, qui compte 5 démarches successives. Reconnaissant avoir reculé dans ma vie de disciple de Jésus-Christ, je prends aujourd'hui devant Dieu et grâce au travail du Saint-Esprit en moi, la décision solennelle de lui consacrer tout à nouveau mon être entier. Je lui demande pardon, deuxièmement, d'avoir déshonoré son nom par un mauvais témoignage et saisis son pardon avec confiance et reconnaissance à la croix. Troisièmement, je m'engage avec sa force à réparer les torts que j'ai causés à mon prochain et à demander pardon à ceux que j'ai offensés. Quatrièmement, j'éprouve le besoin de m'engager davantage dans l'Église et d'être plus utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Cinquièmement, je désire vivement un entretien avec un responsable de l'Église pour être aidé et conseillé dans un ou plusieurs domaines particuliers. 5 cases, avec la possibilité de cocher des cases par lesquelles chacun se sent concerné. Et puis, un talon, avec l'adresse, et les mêmes 5 cases, de manière à reproduire la démarche effectuée. Et ainsi, de soir en soir, je récupérais des talons. Et l'avant-dernier soir s'est terminé, je me suis retrouvé devant le Seigneur en pensant à la dernière soirée. J'ai dit, mais Seigneur, voilà le message que je pense donner demain, mais je constate une chose, c'est que tous les talons ont bien les cases 1 et 2, éventuellement 4 et 5 cochées, mais aucun talon n'a la case 3 cochée. Je m'engage avec sa force à réparer. Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je dire demain soir? Parce que il y a quelque chose qui manque là. Et pendant cette nuit-là, de manière tellement claire, Dieu a parlé à mon cœur, m'a dit, mais il faut que tu leur parles du plus grand problème de l'homme, l'orgueil. Et le lendemain soir, nous avons changé l'orientation de cette fin de série, et j'ai dû parler de l'orgueil. Oh, ce n'était pas facile. Mais ce soir-là, se sont avancées autant de personnes que pendant toute la semaine réunies. Et on est venu me voir, en me disant, écoutez, est-ce que vous voulez me rendre mon petit papier? Et nous avons vécu une soirée extraordinaire parce que des gens se sont réconciliés publiquement. J'étais en train d'aider une personne qui revenait au Seigneur. Et subitement, elle m'arrête. Et elle me dit, écoutez, attendez un instant parce que là, je vois quelqu'un qui vient de s'avancer, qui habite mon quartier, et qui n'est pas croyant, donc qui peut-être prend une décision en ce moment. Je dois lui parler. Et là, devant moi, ce croyant rétrograde qui revenait au Seigneur a demandé pardon à cette incroyante pour son mauvais témoignage dans le quartier. Alors, ça, c'était la pierre de touche. Je me souviendrai toute ma vie d'une série sur ce thème, il y a 15 ans, dans l'île de Jersey, en pleine Manche, dans une grande église anglicane, une véritable cathédrale, où nous avons eu une des plus longues réunions dans une église anglicane, 3 heures d'affilée. On n'en est pas là ce soir, hein. 3 heures. Et où à la fin de la réunion, dans cette église, apparemment si froide, ces gens qui se levaient, ces frères et sœurs, et qui publiquement se réconciliaient les uns avec les autres. Au point que mon interprète et moi, qui chantions également ensemble en nous accompagnant d'instruments, nous nous sommes regardés, parce que ça durait. Et nous étions devant là, en disant, mais que faire? Et nous avons accompagné ces réparations publiques de nos chants. Pendant des quarts d'heure, Le ciel était descendu sur la terre. C'est pour nous, aujourd'hui, maintenant.
Oh, je ne dirai rien, ou pas grand-chose de la conclusion générale, c'est le quatrième R, cette conclusion générale. Je ne vais pas le développer parce qu'il va tellement de soi, puis après tout, vous pouvez très bien travailler un petit peu et donner vous-même une suite. Il nous est dit au verset 22 du chapitre 1er, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Le réveil, c'est un recommencement. C'est un recommencement, c'est-à-dire que, je le dis parce qu'un réveil n'est jamais une fin en soi. Nous considérons si facilement le réveil comme un aboutissement. Alors on récolte les lauriers et on se repose sur le matelas épais d'un multispire, on dirait chez nous en France, du réveil. Quel accomplissement, c'est le sommet, non ? Parce que nous risquons d'ériger le réveil à son tour en idole et de devenir des sortes de messagers uniquement du réveil. Et on va se balader partout avec le seul message du réveil, du truc à Maurice Decker, n'est-ce pas ? Non ! Le réveil, c'est un recommencement, c'est normal, dans le fond. On retrouve une vie de disciple normale. La vie du Seigneur Jésus est à nouveau répandue dans mon cœur. Le Saint-Esprit me remplit tout à nouveau. Il va pouvoir travailler en moi et à travers moi. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Naomi. En retrouvant Bethléem, Ephrata, Naomi a retrouvé l'approbation de Dieu, sa bénédiction, le repos du cœur, la joie du salut, la fécondité. Mais elle n'a pas dit à Dieu, Éternel, j'exige que. Nous avons tendance à exiger, dans la mesure où nous empruntons le chemin du réveil, que Dieu, il soit productif, que ce soit rentable. Seigneur, je veux des bénédictions. Il faut qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, Seigneur. Et une fois de plus, nous créons une distorsion par rapport à la pensée de Dieu. Seigneur, peu importe le résultat, ce qui compte, c'est que ta vie soit répandue dans mon cœur. Je ne vais pas te dicter ce que tu dois faire après. Ça c'est ton affaire. À moi de te laisser régner dans ma vie de tous les jours. C'est important cela, c'est pour cela que je ne peux pas l'escamoter. Bien entendu, ce qui est merveilleux, c'est que au verset 16 du chapitre 4, vous avez remarqué, c'est très fort, hein ? Au verset 16, Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein, elle fut sa garde, c'est un geste symbolique d'adoption. Et c'est presque frustrant pour Ruth, hein, à la rigueur, hein ? Vous avez remarqué dans le texte ? Comme toute la fin du livre de Ruth est concentrée, non pas sur Ruth, mais sur Naomi. Vous avez remarqué ? Au début, elle perd tout. À la fin, c'est elle qui est à nouveau au centre. Elle est enrichie. Un fils est né à Naomi. Naomi, n'est-ce pas ? Et ce fils s'appelle Obed. Et Obed, c'est intéressant, c'est l'abréviation d'Obadia qui veut dire le serviteur du Seigneur. Obed, serviteur. Engendrer un serviteur. Quel message ?